L'invité de Stade Bleu, Jacques Vendroux.
Bonsoir Victor Zvinka.
Bonsoir.
Quand je regarde votre CV, bon alors vous avez joué à Metz, vous avez joué à Marseille, Laval, le Racing Club de Paris, là c'est joueur. Quand je regarde votre CV d'entraîneur, vous avez entraîné, allez, on va dire une bonne vingtaine de clubs, pour faire court,
oui.
Il y en a beaucoup.
Oui.
Vous êtes une sorte de globe-trotter du football français, que ce soit joueur, que ce soit entraîneur. Le football a été votre passion immédiatement? Parce que vous n'avez jamais rien lâché, hein.
Oui, j'ai jamais rien lâché. Bon, c'est déjà depuis tout petit. Parce que bon, déjà, j'avais mes frères qui jouaient. Et donc, moi, quand
Georges Zvinka et Jules Zvinka, faut pas oublier.
Voilà, oui. À nous trois, on a plus de 1000 matchs en première division, hein.
Bon,
donc,
c'est
rare. Déjà, oui, trois frères, c'est rare, voilà. Et donc, le football, bah, de tout petit, hein, j'avais un jardin. En fin de compte, j'allais jouer où? Sur la place de l'église. J'allais jouer dans mon jardin parce que on était responsable d'un château. Et donc, mon père s'occupait un petit peu de l'intendance. Donc, on avait des espaces verts. Et donc, tous mes copains venaient jouer à la maison. Donc, c'était le football. Après, naturellement, en tant qu'amateur au FCMS. Et puis après, naturellement, en tant que professionnel et puis dans différents clubs. Et puis, naturellement, quand je suis arrivé au Matra Racing, bon ben je m'orientais puisque on avait été licencié de l'Olympique de Marseille, j'ai commencé à passer mes diplômes et donc pour moi c'était tout naturel de me retrouver dans le football parce que j'avais envie de faire passer un message, faire passer ma passion, essayer de donner tout ce qu'on m'avait appris pendant des années.
Alors puisque vous parlez de Marseille, ça reste quand même les plus belles années de votre vie en tant que joueur.
Oh ben oui, parce
c'est
que
le
bon,
must.
Bah oui, parce
que les gens comprennent pas toujours. Ils disent, on rêve de jouer à Marseille,
ouais.
Même s'il y a de temps en temps des drames, des affaires de temps en temps. Enfin, je veux dire, Marseille est toujours un peu subjectif. Oh et tout le monde dit, mais quel pied d'avoir joué à Marseille.
Ah ben, de toute façon, moi je le dis, hein, bon, je suis passé dans les deux clubs, hein, bon, même s'ils s'aiment pas, c'est Paris et Marseille. Quand tu vas jouer à Paris et à Marseille, après tu peux jouer où tu veux, tu peux aller entraîner, jouer dans n'importe quel pays en Europe, c'est pas un problème. C'est sûr que bon, quand j'ai débuté ma carrière et que j'ai mon frère qui est parti jouer à Marseille, ben je me suis dit si un jour je pouvais aller jouer à Marseille, ça serait super. Et le jour où Marseille m'appelle pour me dire voilà, on est intéressé, Jules Zvinka prend sa retraite, il arrête, on cherche un autre stopper, il y en a plusieurs candidats. C'est sûr que bon, le fait d'avoir eu mon frère avant à Marseille, ça s'est sûrement facilité. Et donc quand on m'a annoncé ça, ma mère m'a même caché, voulait pas me le dire, mais voilà, le coup de téléphone que j'ai reçu, elle me l'a annoncé que 2-3 jours après. Donc bon, moi à pied, je serais allé à Marseille. Bon, par contre, jouer à Marseille, il faut d'abord être très solide mentalement.
Irréprochable.
Oui, parce que bon, vous êtes suivi de partout. Vous êtes suivi naturellement par les journaux, mais vous êtes suivi aussi par les supporters. Parce que quand tu sors à Marseille ou dans les alentours de Marseille, tout le monde te voit, te reconnaît, tout le monde veut te parler, tout le monde t'observe. Donc il faut être irréprochable et donc de ce côté-là, il faut avoir un gros mental. Mais une fois que tu passes à Marseille... avec les supporters, voilà, je vais au stade Vélodrome, je vois comment ça se passe actuellement. Bon, je suis descendu sur le terrain deux fois. C'est extraordinaire. Quand tu as 50 000 personnes, 60, nous de notre époque c'était 30 000. Tu te sais
c'était
que
déjà bien.
Oui, c'est déjà bien. Tu grimpes au mur, voilà. Et donc il faut être dans sa tête super super fort. Bon, moi j'ai eu des moments difficiles au départ, mais après j'avais tellement envie de jouer à Marseille que bon, je me suis accroché. Et puis naturellement, le fait d'avoir marqué un but, d'avoir été en équipe de France Espoir, d'avoir été en équipe de France A, ben ça m'a complètement libéré, mais ça a aussi libéré les supporters.
Alors il y a eu des joueurs prestigieux qui ont joué avec vous. Quels sont ces joueurs qui vous ont gardé le meilleur souvenir?
Ben pour moi le plus fort, pour moi, et j'ai passé 6 années je crois avec lui, c'est Marius Trésor. Il n'y a pas de secret, je pense qu'avec Marius c'était exceptionnel, on jouait tous les deux.
Et en plus amis dans la vie.
Voilà, exactement, on était ensuite dans la même chambre, et puis au quotidien à Marseille on était toujours ensemble. Donc ça c'était vraiment une association qui a super bien fonctionné, et on était tous les deux très 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 copains, et ça se retrouvait sur le terrain, parce que on se connaissait tellement que bon, quand il y avait une erreur d'un ou de l'autre, eh ben on savait se rattraper. Et puis après, bon, naturellement, j'ai connu Gersino et Paulo César. J'ai connu Skoblar et Manusson. Donc, j'ai connu Yazalde. qui était aussi super attaquant. J'ai connu naturellement Berdol, Boubacar, qui était aussi des joueurs exceptionnels. J'ai connu aussi un Suédois qui est passé par Marseille, qui s'appelait Linderoth aussi, qui était un super joueur, une grande mentalité. Voilà un petit peu les joueurs avec qui...
C'est l'une des plus belles écoles de la vie.
Oui, pour moi, ça m'a...
C'est là où vous apprenez pratiquement tout.
Voilà, parce que bon, naturellement, par le football, tu côtoies des gens, tu vas sur les terrains, tout le monde veut t'approcher, on vient te taper dans le dos, tu apprends aussi le fait de dire, t'as gagné, t'es le plus beau, t'as perdu, faut se cacher.
T'es un imbécile.
Donc, ça te fait du bien, et puis tu sais aussi après choisir en fonction tes amis, on va dire ça comme ça, ou tes relations.
On rappelle que l'invité de ce Stade Bleu ce dimanche soir, c'est Victor Zvinka, ancien entraîneur de plusieurs clubs. J'ai pas tous les nommés, mais je vais dire le Racing Club de Paris, Valenciennes, Niort, Toulouse, Châteauroux, Nice, Amiens, Lausanne, Laval, Guignon, Guingamp. Ancien joueur aussi professionnel de Metz, Marseille, Laval et le Racing Club de Paris. Vous êtes sur Stade Bleu, 19h30, 20h.
L'invité de Stade Bleu, Jacques Vendroux.
L'invité de ce Stade Bleu ce dimanche soir, Victor Zvinka, entraîneur d'Arles-Avignon, actuellement, on va y revenir dans quelques secondes, joueur professionnel de Metz, Marseille, Laval, le Racing, entraîneur de plein d'équipes de Ligue 1 et de Ligue 2, on va y revenir également sur ce parcours qui est hors norme. Victor Zvinka, vous nous le disiez tout à l'heure, vous avez vécu à Marseille sans doute les plus belles années de votre vie, et vous dites, j'ai été construit grâce à Marseille en tant que joueur et même quelque part en tant qu'homme.
Oui, parce que c'est le relationnel et puis c'est une ville qui aussi vit et ça t'apprend aussi à mieux connaître les gens et puis à apprécier aussi les bons côtés de ta carrière de joueur de football parce que tu vas autour de Marseille voir des jeunes, tu vas voir des matchs donc on est content de te voir, tu rends du plaisir à beaucoup de gens parce que un joueur olympique de Marseille qui vient à un endroit ou à un endroit c'est toujours bien vu et puis naturellement pour toi dans ton quotidien, les relations. Voilà, c'est vrai, en arrivant à Marseille, j'ai connu la société, je peux la nommer, la société Ricard, qui a été toujours très proche du club. Et donc, tu étais avec eux, ils te recevaient, ils t'invitaient à gauche et à droite. Il y avait un relationnel, mais ce n'était pas que seulement par le travail, c'était aussi humain.
La culture du vestiaire est la culture la plus importante de la vie. C'est-à-dire quand on vous met dans un vestiaire, vous êtes obligé d'aimer tout le monde, et même ceux que vous n'aimiez pas, vous êtes quelque part obligé de vous aimer. Pareil pour vous.
Oui, exactement, mais
On
compose, naturellement, parce que d'abord, vas faire le même travail quand le coup de sifflet est donné, c'est-à-dire que quand tu rentres sur le terrain, on est 11. C'est vrai qu'on dit très souvent que le football, c'est naturellement un sport collectif au travers d'individualités. Mais ces individualités doivent se mettre au service du collectif. Et donc, c'est vrai que dans le vestiaire, on apprend justement à faire ces petites choses-là pour que ça se passe bien. Par exemple, on avait un joueur que j'ai connu aussi, Didier Six, qui est venu pendant 2 années à Marseille. C'est vrai qu'on a eu, à un moment donné...
Compliqué à gérer.
Oui. Donc, il fallait absolument, au quotidien, être derrière lui, le remettre sur le droit chemin. Ça s'est bien passé pendant 6 mois. Après, ça s'est de nouveau mal passé pendant 6 mois. C'était des joueurs avec qui, c'était plus compliqué. Un joueur comme Berdol, qui, lui, était facile à vivre. Il était toujours au quotidien près des gars, il rigolait dans le vestiaire. Boubacar, la même chose. Marius, il rigolait tout le temps. Mijon, qui donnait aussi.
Les stars aussi.
Naturellement. J'avais Jairzinho, Paulo César. C'est vrai qu'ils étaient peut-être compliqués par moments. Plus Paulo que Jairzinho. Jairzinho, c'était un professionnel exemplaire et exceptionnel. Il venait de gagner la Coupe du Monde. Il vient à l'Olympique de Marseille. Il s'est mis au service de l'équipe. Extraordinaire. Paulo avait des envies de s'amuser. Il sortait un peu. Donc, on essayait aussi de le calmer, de lui dire attention. Marseille, si tu fais ça, il partait à Rio pour faire le carnaval, il revenait. Les gens attendaient dehors pour savoir s'il allait jouer ou pas jouer. Donc tout ça, c'était pour nous, c'était exceptionnel. Mais on savait l'accepter aussi parce que par moment, on était 10 ou 9 à se serrer les coudes, c'était difficile. Puis tu donnais le ballon à Jairzinho pour les César, il te faisait gagner le match. Donc dans le stade, tous les matchs, quand ils étaient là, on jouait devant 30 000, le stade était plein. C'était une ambiance exceptionnelle.
Alors là, vous parlez de Marseille, on peut dire que vous êtes éclaté professionnellement. Mais j'aime bien cette expression parce que je connais beaucoup de vos coéquipiers. Vous vous êtes en plus marré. Il y avait une ambiance fabuleuse.
Tout à fait, tout à fait. On savait aussi se retrouver très souvent parce que on savait aussi s'amuser. Et puis, quand on sortait, on savait s'amuser, le lendemain, on était au stade à 8h, parce que, bon, dans notre temps, on va dire ça comme ça, on avait le lendemain matin des crassages qui étaient importants. J'en parlais encore cette semaine, justement, avec quelques joueurs de l'Avignon. Je leur disais que, bon, des fois, on rentrait, était 4h30, 5h, parce qu'on avait fêté une victoire, mais à 8h, on était au stade. On était sur le terrain, il n'y avait pas un joueur qui disait « Oh, mais j'ai un peu mal au dos, j'ai mal à ma cuisse ». On était sur le terrain pour transpirer et perdre tout ce qu'on avait fait. Et puis ensuite, bon, ben, naturellement, il y avait des repas dans le vestiaire. On peut se payer un coup à boire, on était ensemble. Bon, on rigolait aussi.
Ça se fait de moins en moins qu'on le veuille
oui,
ou non.
Moi,
différemment.
Voilà, moi je me rappelle quand même que bon, Robert Bug, hein, qui a joué aussi avec moi à Marseille et puis qui a joué avec moi à Laval, je me rappelle que dans le vestiaire, des fois, on faisait un anniversaire, qu'est-ce qu'on faisait ? Bon, on restait 6 ou 7, on se payait un coup à boire et on était dans le vestiaire, on donnait l'ambiance. Et je pense que ça doit sûrement un petit peu manquer, le rapprochement. Et puis surtout, quand il y en a un qui s'est garé, on essayait de le remettre tout de suite dans le droit chemin. On essayait tout de suite de lui faire comprendre que bon, ben, on était une équipe.
C'est pas le bon film. C'est pas le bon film.
Voilà.
En tous les cas, ce qui est important, c'est que vous vous êtes bien amusé à Marseille, vous avez bien joué à Marseille. Après, vous avez quitté Marseille pour Laval, où vous êtes resté combien de temps
deux
déjà
ans. Deux ans.
Et vous êtes l'un des premiers joueurs, stars entre guillemets, à signer au Racing Club de Paris, comme défenseur. Il y avait Jean-Luc Lagardère qui venait d'arriver dans le football. Oui. Tout ça n'était pas simple.
Oui, c'était pas simple. Bon, je veux dire sur l'OM. Bon, tu as passé tellement de temps à l'OM. Moi, je voulais rester. On est descendu, on a été licencié. J'ai essayé de tout faire et tout. Bon, je fais partie des 10 joueurs qui ont le plus joué à l'Olympique de Marseille. Avec mon frère, on a fait pratiquement 300 matchs. Et donc, c'est vrai que de ce côté-là, il reste une identité, ça te reste dans la tête. Mais quand je suis arrivé au Matra, c'est le hasard aussi, parce que ils étaient venus, Alain de Martini, était venu voir le match pour voir, observer Krause. Et ce jour-là, on jouait contre le Paris Saint-Germain. Et bon, j'étais un des meilleurs joueurs. Et ils se sont dit, bah tiens, on cherche aussi un défenseur central qui a de l'expérience, qui est tout le temps présent et tout. Et donc, quelques jours après, j'ai eu un coup de téléphone. Et bon, 3 mois avant la fin du championnat, j'avais donné ma parole à Serge Guyot, hein, puisque c'est lui qui faisait le secrétariat. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il était venu avec Alain de Martini et Monsieur Vial. Et tous les trois, on s'est tapé dans la main. J'ai rien signé. J'ai tapé dans la main des dirigeants. Je leur ai dit, voilà, il n'y a pas de problème. L'année prochaine, vous pouvez compter sur moi, je serai là pendant 2 ans au Matra Racing.
On peut rappeler aussi qu'à l'époque, il y avait le Racing Club de Paris dont vous avez fait partie, oui. Et le Paris Saint-Germain.
Tout à
donc
fait.
Ça veut dire que deux clubs à Paris, c'est tout à fait jouable,
oui.
Quelque part.
Oui, et puis bon, Monsieur Lagardère, je pense qu'il a fait, il voulait faire un grand club. Hein, et c'est vrai que quand Madjer est arrivé, Auckland est arrivé, ça faisait aussi des joueurs qui avaient une expérience de la Ligue 1, mais Madjer qui était un peu moins connu, il était connu dans son pays, mais quand il est arrivé, on a vu tout de suite que c'était un joueur hors norme aussi.
Hors norme, mais le jouer au Racing Club de Paris, avec ce maillot ciel et blanc, comme on voit par exemple l'équipe de rugby actuellement, il y a aussi quelque chose un petit peu d'historique.
Alors, c'est très simple, pour moi, j'avais reçu 3-4 coups de téléphone de clubs qui me voulaient. Il y avait le FCMS qui voulait me reprendre et faire un contrat à longue durée. Il y avait le Havre et puis le Matra, le Racing, parce que ça s'appelait Racing au départ. J'ai même pas hésité. Pour moi, dans ma tête, c'est en tant que jeune aussi, il y avait dans l'époque, c'était Reims, Marseille et le Racing. Pour moi, c'était les grands clubs et je me suis dit, bon, Monsieur Lagardère, je le connais, il veut faire une grande équipe, c'est à mon... J'avais 30 ans, j'ai dit, c'est pour moi la possibilité de monter un grand club à Paris. Je n'ai même pas hésité, même si c'était en Ligue 2.
Et ce qui est extraordinaire, vous arrivez joueur et vous terminez entraîneur. Un peu à la surprise générale quand même.
Oui, alors, ça s'est fait vraiment...
Ça s'est fait très vite, je me souviens très bien de la situation.
Je crois que le 1er janvier, on fait un match amical. Le soir, je rentre à la maison, M. Lagardère m'appelle, il me dit « Demain, c'est vous l'entraîneur ». Ah bon ? Bah, je dis « Attendez ».
Mais pas préparé du tout.
Ah, pas du tout, pas du tout.
Vous êtes encore à 100% en joueur.
Ben, je suis joueur, voilà, je joue même en Ligue 1, on est en Ligue 1 et tout. Je dis « Attendez ». Il me dit « Si, demain matin, vous venez à l'entraînement, c'est vous l'entraîneur ». Le lendemain matin, ben, j'étais désigné entraîneur du Matra Racing. Donc bon, bah, ça m'a permis de me lancer tout de suite dans ce que je voulais faire. Donc ça, il n'y avait pas de souci. Bon, j'ai accepté. C'était pas évident, hein, parce que tu passes du jour au lendemain avec des joueurs avec qui tu étais copain. Tu vas être de l'autre côté de la barrière et tu vas être obligé de faire des choix d'équipe et des choix d'entraîneur. Et le premier choix que j'ai fait, Auckland, qui dormait avec moi depuis un an et demi, je l'ai sorti de l'équipe.
L'invité de Stade Bleu, Victor Zvinka, l'actuel entraîneur d'Al Avignon. On parle de ses souvenirs. Il fait partie un peu de, allez, du patrimoine du football français. Alors on se retrouve dans quelques secondes.
L'invité de Stade Bleu, Jacques Vendroux.
Victor Zvinka, entraîneur actuel de Al Avignon. Vous nous avez raconté cette anecdote extraordinaire. Vous vous retrouvez quasiment du jour au lendemain entraîneur du Racing, dont le président est quand même Jean-Luc Lagardère. C'est là que vous vous êtes dit, je vais devenir maintenant entraîneur de football. Ça vous a plu à ce point-là?
Ah oui, tout de suite, parce que
Michel Platini dit toujours, on n'est pas leader par hasard. Vous étiez leader sur le terrain, que ce soit dans les clubs où vous avez joué, et le leader, logiquement, termine entraîneur. Vous êtes d'accord avec cette analyse?
Alors, pour moi, ça a été très clair, tout de suite. Dans tous les clubs où je suis passé, ça a été pour moi de faire jouer des jeunes, il n'y a pas de problème. Hein, je suis même pour les pousser, pour en faire jouer. Bon, il y a plein de, on en reparlera peut-être tout à l'heure, plein de jeunes qui ont débuté leur carrière. Mais pour moi, c'était clair, c'était entraîneur d'une équipe senior, professionnelle. Pourquoi ? Parce que je pense que j'ai en moi le fait d'être quelqu'un qui va pousser et qui va être constamment derrière les joueurs pour essayer de les aider, pour essayer de les guider, pour les engueuler naturellement aussi de temps en temps, et les encourager. Et c'était vrai pour moi. Donc il fallait que j'apprenne quand même le métier. Donc c'est vrai que je suis passé entraîneur pendant 6 mois. Il y a Sylvester Takac qui est venu, puisque malheureusement on est descendu quand même la dernière journée. Et j'ai appris mon métier en tant qu'entraîneur dans le centre de formation du Matra Racing. Et je suis repassé de nouveau après entraîneur de l'équipe professionnelle. Mais pour moi c'était clair, c'était une équipe professionnelle et ce n'était pas un centre de formation.
Alors ce qui est important, c'est que quand on parle de vous, Victor Zvinka, un club est en difficulté, on l'appelle, c'est le pompier de service, il est capable de remettre un club dans la bonne direction. Vous souffrez de cette réputation qui est quelque part un petit peu... qui est bien, c'est bien, mais aussi c'est un peu ambigu quand même.
Oui,
ça va pas, on appelle Zvinka.
Oui, je sais, ben, c'est bientôt pour ça aussi que j'ai eu tant de clubs. Peut-être que je suis passé parce que ça, c'est bon côté et mauvais côté. C'est sûr que bon, les bons côtés...
Alors, les bons côtés.
Les bons côtés pour moi, c'est que bon...
vous êtes toujours quasiment en fonction. Voilà,
voilà. Et puis voilà, exactement, ça fait 30 ans que j'entraîne. J'ai pratiquement, je dirais dans mes 30 ans, j'ai passé un an et demi peut-être à ne pas entraîner. Le reste du temps, j'étais toujours quelque part. Et puis dès que je rentre à la maison au bout de 2 mois, il faut que je bouge. Donc il faut que j'aille quelque part. Donc bon, c'est vrai que c'est pour moi c'est vite vite rebondir. Donc moi pour moi le bon côté c'est tu es là, tu es dans le club, tu fais passer tes messages, on pense à toi. On pense à toi, donc ça veut dire que c'est pas toujours que négatif. Ça veut dire quand même que on connaît tes qualités, on sait que on a besoin d'entraîneurs qui fassent passer des messages avec beaucoup d'insistance, de rigueur, de travail. Et je pense que bon, pour moi, entraîneur, c'est ce que on essaye de faire véhiculer aux joueurs et naturellement aux dirigeants. Alors le mauvais côté aussi, c'est que quand tu arrives dans ces situations-là. Ben,
une situation qui est pas bonne.
Voilà, tu vas pas dans les petits détails, tu vas directement dans le dur, tu vas directement dans les conflits. Bon, moi, ça, les conflits, c'est pas que je les adore, mais bon, ça me dérange pas parce que bon, ça fait partie de la vie et puis il faut savoir vivre avec ça. Mais, et après, ben, en ayant des conflits, naturellement, ça plaît pas à tout le monde. Quand t'as 30 joueurs ou 20 joueurs, ben, t'es obligé d'en avoir 3, 4, 5 avec qui t'as des conflits et c'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est ce qui m'est arrivé et je pense que mon côté qui a basculé, je pense que c'est quand j'étais à Toulouse, où naturellement j'ai eu un petit souci avec 3-4 joueurs. Après, ça s'est mis avec 5 ou 6 ou 7. Et puis, naturellement, ça a un peu coupé mon élan par rapport à ce que j'avais mis en place et où je retrouvais un club de Ligue 1 et où je pouvais m'exprimer.
L'invité de Stade Bleu, Jacques Vendroux.
On rappelle que l'invité de ce Stade Bleu ce dimanche soir, c'est Victor Zvinka. Alors justement, vous avez entraîné le Racing, Valenciennes, Niort, Toulouse, Châteauroux, Nice, Amiens, Lausanne, Laval, Guignon, Guingamp, et j'en oublie certainement. Quels sont les clubs où vous êtes le plus éclaté?
Alors,
les meilleurs souvenirs.
Le premier pour moi, c'était le plus beau. Pourquoi? Parce
le
que
Racing.
Voilà, le Racing, parce que Monsieur Lagardère m'avait donné les clés. J'avais signé un contrat où je pouvais faire tout. J'étais en fin de compte. On en parle maintenant, mais j'étais à l'époque manager général du club. Il m'avait signé les je m'occupais, j'allais avec naturel Jean-Marie Danuzac, Roger Fleury, et puis quelques entraîneurs du club encore. On allait dans la détection pour les cadets. À l'époque, c'était les cadets nationaux. On allait faire voir les ligues et tout ça. J'ai fait du recrutement. D'après, on gagne la Gambardella avec Silver Sir Staka, qui avait pris ma place au centre de formation. J'étais déjà à cette époque-là, en 85, ce que l'on fait maintenant, aujourd'hui, beaucoup de clubs, notamment en Angleterre, où il y a un manager général, bon, pour moi, je le faisais déjà. J'avais mis en place, avec Denis Trush, un entraîneur des gardiens de but, quand j'ai pris l'équipe en 85. Donc, j'avais déjà pensé à plein de choses. Alors, pour moi, c'est sûr que c'était... Et puis, j'avais des possibilités énormes. J'allais voir, je prenais des avions à gauche et à droite, je faisais un entraînement, je prenais un avion, je ne disais rien à personne, je m'en allais, j'allais voir un match, je revenais le lendemain matin, personne ne savait où j'étais, je voyageais tout le temps pour voir des matchs et pour trouver des joueurs. Donc ça, c'était exceptionnel pour moi. Bon, après, j'ai passé un bon moment à Niort, parce qu'on a vécu une année difficile avec un dépôt de bilan, mais on va quand même en quart de finale de la Coupe de France, et puis on fait la finale de la Coupe de la Ligue, l'époque, la Coupe de la Ligue de l'époque. Après, j'ai passé des bons moments, naturellement, à Châteauroux, parce que bon, quand tu prends un club et que tu descends, et que tu remontes en étant champion de national, champion de Ligue 2, tu vas en Ligue 1, je suis revenu quelques années après, on va en finale de la Coupe de France, on fait la Coupe d'Europe, bon, c'est un club où naturellement j'ai passé que des bons moments. Et puis après, bon, naturellement, pour moi, la cerise sur le gâteau, c'est sûr que c'est Guingamp, parce que bon, je pensais tous les jours à la Coupe de France, gagner la Coupe de France avec un club de Ligue 2. C'est quelque chose
c'était
de magique.
C'était votre rêve?
Pour moi, c'était le plus beau.
C'était obsessionnel.
Depuis tout petit, la Coupe de France, c'était pour moi quelque chose d'exceptionnel. Je l'ai gagné en tant que joueur, j'ai dit, il faut que je fasse participer mes joueurs
et vous
oui naturellement, mais aussi les gens autour de moi, le public et tout, parce que tu te dis en Ligue 2, allez, ils gagneront pas, il y a plein d'équipes qui ont été en finale et qui l'ont jamais gagné. Et c'est vrai qu'entre Le Havre et puis nous, 50 ans, moi j'étais super, ouais, je pense que ce jour-là j'étais le plus heureux.
Merci Victor Zvinka d'avoir été l'invité de ce Stade Bleu en ce dimanche soir. Juste une petite question. Nous sommes à France Bleu Gare Lozère pour vous enregistrer. Nîmes qui reste en Ligue 2, vous êtes content?
Moi, je suis content que Nîmes soit resté en Ligue 2, hein, parce que bon, c'est quand même une ville de football. Bon, maintenant, moi, c'est la décision qui a été prise, la Ligue l'a fait, la Fédé, qui a changé. Il y a des choses que des fois on comprend pas toujours. Bon, on m'a toujours dit.
Vous avez entraîné Nîmes.
Oui, naturellement. Oui. Quand on te dit que quand tu vas faire appel à la Fédé, tu prends le double de ce que tu dois prendre. Là, c'est drôle, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc des fois, je comprends pas. Donc bon, c'est juste le fait de cette décision.
Votre avenir avec Arles-Avignon, qui va sans doute en national.
Oui, on va descendre en national. Ben moi, pour l'instant, on doit se revoir avec le président dans la semaine. Après, c'est de savoir un petit peu le club, comment ça va se.
Mais vous êtes prêt à rester?
Ah ben naturellement. Bon, moi, j'ai avec Monsieur Salerno, j'ai passé 6 mois. Notre relationnel a été super. Je l'avais au téléphone 2 ou 3 fois par jour. Je le voyais au stade 3 fois par semaine. Non, il y a eu vraiment de bons rapports. Donc si on doit travailler encore ensemble une année, pour moi, il n'y a pas de souci.
Merci Victor Zvinka. Stade Bleu, c'est sur France Bleu. Stade Bleu, c'est 19h30, 20h, tous les dimanches. On se retrouve dimanche prochain et merci bien sûr à mes amis de France Bleu Gare Lozère qui ont eu la gentillesse de nous recevoir avec mon ami de toujours, parce que je le connais depuis longtemps, Victor Zvinka. Bonsoir à tous.
Retrouvez Stade Bleu sur francebleu.fr.